Deux passages bibliques porteront cette prédication, deux passages bibliques choisis par Marco et Léonore. Tout d'abord, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, les versets 32 et 33. C'est pendant le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Voici ce qu'il leur dit, selon ce que nous rapporte cet évangéliste. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais moi, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et puis, dans l'épître de Paul aux Romains, bien évidemment, un chapitre incontournable pour Éléonore, le chapitre 5, les versets 15 à 21. L'apôtre Paul s'exprime en ces termes : il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 202. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 qui permettront d'exprimer encore notre reconnaissance pour les deux baptêmes qui viennent d'être célébrés. Éternel Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit, rends ces textes vivants, afin qu'ils deviennent pour nous ta parole. Chers frères et sœurs, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà une formule rituelle bien parpaillotte, souvent utilisée à la manière d'un doudou spirituel d'ailleurs. C'est ce que les protestants disent assez régulièrement pour se consoler des misères du moment, pour ne pas perdre espoir dans des lendemains qui chantent un peu plus. Mais la vérité de cette affirmation n'est pas toujours évidente à vérifier dans notre quotidien. Pour une part, cette difficulté à vérifier la véracité de ce verset biblique tient probablement à un problème de compréhension par rapport à ce que signifie le péché. Nous avons du mal à comprendre ce qu'est le péché. Nous en parlons souvent sans forcément employer ce terme de la bonne manière qui soit. Je vais donc faire un peu d'orthodoxie pour vous ramener à de meilleurs sentiments au sujet du péché. Le péché est souvent considéré comme une faute morale. Probablement d'ailleurs en raison du fait qu'au Moyen-Âge, on a développé les listes des péchés véniels, des péchés mortels, et si nous prenons le soin de penser à ce que ces listes ont provoqué, à savoir toute une série de punitions, de sanctions ou d'actes qui permettent de réparer les fautes, eh bien nous comprenons que dans cette perspective, inévitablement, le péché est dans l'ordre de la morale. Cela, Éléonore pourrait très bien vous l'expliquer en faisant l'exégèse de la conférence de Paul Ricoeur sur le mal. À partir du moment où il y a punition, c'est donc que le mal commis relève de la morale. À chaque faute correspondrait sa peine, sa sanction. Donc, que des péchés puissent être mortels, que l'on soit sanctionné de mort pour un péché commis, laisse donc entendre que le péché serait dans le registre de la morale. Mais la Bible nous oriente sur une autre compréhension de ce qu'est le péché, non pas un problème moral, mais un problème spirituel, qui n'est pas directement lié à la question des fautes. Pour comprendre cela, il suffit de suivre l'apôtre Paul, qui n'y va pas par quatre chemins, qui nous fait remonter directement à Genèse, l'épisode d'Adam, Ève, le petit jardin, le petit pique-nique, et qui va rappeler l'histoire, la situation de celui par lequel non seulement le scandale est arrivé, mais le péché est entré dans la matière humaine. Le péché serait entré dans la matière humaine. Pour appuyer ma compréhension non morale du péché, j'attire votre attention sur deux éléments. Le premier élément concerne l'absence de punition dans le récit biblique de la Genèse. Alors, bien entendu, il est d'usage de dire qu'Adam et Ève ont été punis pour leur transgression en étant condamnés à mort, et comme cela ne suffisait certainement pas, condamnés à avoir des grossesses difficiles et à devoir suer sang et eau pour sortir quelque chose de ce fichu sol. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que cela pouvait être compris autrement qu'à la manière d'une punition. Comme il y a des parents de jeunes enfants dans l'assistance, si je vous dis que nous entrons dans cette époque tout à fait favorable aux bronchiolites, ce qui supposera quelques séances de clapping par le kinésithérapeute, suis-je en train de vous punir de quoi que ce soit ? Suis-je en train de vous maudire ? Non, je vous préviens de ce qui risque de vous attendre. Je vous informe, je vous mets en garde, de manière à ce que chacun puisse se préparer et soit donc moins effrayé si la chose venait à se présenter, car c'est absolument horrible des séances de clapping. Soyez-en persuadés, surtout pour les mamans, paraît-il. Pour les pères, c'est épouvantable également. Il me semble que c'est ainsi que nous pouvons comprendre l'issue du pique-nique dans le jardin d'Éden. Dieu ne punit pas Adam et Ève. Il les prépare à la possibilité d'un avenir marqué par la liberté, et donc, afin qu'ils soient mieux équipés pour affronter le futur, il leur décrit ce qui potentiellement peut leur arriver. Outre le fait qu'il n'y a pas de punition qui serait la trace que le péché relève de la morale, je porte à votre connaissance ce deuxième argument, l'exégèse que Martin Luther fait de ce passage, dit du péché originel. Cette expression, ce titre, pose problème, parce que le mot « péché » ne figure pas dans ce texte biblique, pas plus que le mot de faute d'ailleurs. Donc la question qui se pose pour le lecteur, c'est de savoir où se situe le péché dans ce récit du Jardin d'Éden. À quel moment y a-t-il péché ? Eh bien, pour Luther, le péché, ce ne serait pas dans la transgression de la loi qui, évidemment, conduirait à une faute morale, ce n'est pas la consommation d'un fruit qui a été défendu. Pour Luther, le péché et dans la question qui est posée par le serpent, Dieu a-t-il vraiment dit ? Dans cette question dans laquelle s'engouffrent Adam et Ève. Dieu a-t-il vraiment dit ? Pourquoi est-ce que c'est là le péché selon Luther ? Eh bien, parce qu'en posant cette question, on met Dieu à distance. On devient extérieur à Dieu. On fait de Dieu un objet. Un objet de référence, certes, mais un objet. On en fait un « il », on l'objectivise. Dieu devient un quelque chose. On est donc extérieur à Dieu et c'est là le péché, cette distance qu'il y a entre Dieu et soi. Et de ce point de vue, le péché donc vient un problème spirituel et pas avant tout moral. À chaque fois que nous mettons Dieu à la troisième personne, nous en faisons un objet. Et si nous suivons le théologien allemand Rudolf Bultmann, en agissant ainsi, Dieu devient un donné qui se soumettrait à notre connaissance. Pour le dire peut-être de manière plus compréhensible, avec cette formule devenue fameuse, parler de Dieu, c'est parler de toute autre chose que de Dieu. Pour Bultmann, parler ainsi de Dieu, parler de Dieu à la troisième personne, n'est pas seulement une erreur et une illusion, je cite, c'est un péché. Le péché, selon Bultmann, c'est de parler de Dieu comme d'un objet auquel on se réfère. non pas parce que les mots nous manqueraient pour dire Dieu, ou parce qu'ils seraient toujours insuffisants pour dire la nature de Dieu, mais en raison du fait que lorsque nous parlons de Dieu comme d'un objet de connaissance, il cesse d'être le Dieu qui s'incarne. Il cesse d'être le Dieu qui détermine notre existence. Il cesse d'être le Dieu qui permet à l'homme de devenir lui-même. Il cesse d'être ce Dieu qui met en question l'existence de l'homme et lui permet d'avoir une existence singulière, unique en son genre. C'est la raison pour laquelle, selon Bultmann, la seule manière de parler de Dieu est de parler de notre existence concrète. Pour Bultmann, on ne peut pas correctement parler de Dieu sans parler de nous. De nous parce que nous sommes le lieu où Dieu s'exprime, le lieu où Dieu agit, le lieu où Dieu se manifeste. Nous sommes l'épiphanie de Dieu. C'est ce que fait également l'apôtre Paul. C'est ce que fait cette sublime revue Évangile et Liberté, avec ses rubriques Agir et ses rubriques Vivre, où nous ne sommes pas dans la construction de mécanos dogmatiques, mais bien dans le récit de trajectoires qui mettent en évidence la manière dont Dieu fait histoire avec nous. L'apôtre Paul fait de même en parlant de l'homme chargé de son passé et de l'homme lourd de son présent. D'ailleurs, il y a quelque chose qui peut être un peu agaçant chez Paul, c'est sa capacité à se mettre en scène. Paul parle beaucoup de lui. On peut prendre ça comme du narcissisme. C'est, selon Bultmann, la seule manière de mettre son interlocuteur sur la piste de Dieu. Dieu qui fait grâce à chacun, personnellement, et non pas d'un Dieu dispensateur d'une grâce universelle qui effacerait les singularités et qui uniformiserait les individualités. Le baptême atteste cela également, atteste le fait que nous avons une valeur unique. On n'a pas baptisé Éléonore et Marco ensemble, mais successivement. Et chacun a entendu la promesse, la bénédiction qui a suivi ce baptême d'une manière unique. Le baptême atteste que c'est notre être propre qui est pris au sérieux et non le genre humain. Le baptême atteste que c'est notre responsabilité individuelle qui est engagée. C'est la raison pour laquelle ils ont librement demandé le baptême. C'est la raison pour laquelle Paul referme ce chapitre du péché originel qui serait héréditaire. Et si je peux me permettre, quelques siècles avant Emmanuel Kant, qui en fait de même dans De la religion. Mais c'est parce qu'entre-temps, il y a l'ami de Marco, un certain Augustin d'Hippone, qui avait réouvert le chapitre. Il a donc fallu que le deuxième Paul de Tarse, à savoir Emmanuel Kant, referme ce chapitre-là. C'est dans cet épître que l'apôtre Paul met un point final à cette idée selon laquelle il y aurait un péché héréditaire, un mal héréditaire qui se transmettrait de génération en génération. À supposer que le péché soit entré par un homme, eh bien, en tous les cas, on peut être convaincu qu'il est sorti par Jésus-Christ. Donc, passons à autre chose. Mais Paul et Emmanuel Kant ont autre chose en commun. C'est de constater une sorte de forte propension au péché. Kant parlera d'un penchant au mal. Que nous sommes fascinés par le mal. Nous pourrions dire que nous avons une réelle tendance à voir ce qui ne va pas et à nous y attacher. Mais je le répète, le péché ne relève pas de la morale, mais du spirituel. Le penchant de l'homme malheureux, c'est donc de se fier à des images au lieu de se fier au réel. C'est de placer sa confiance dans des discours sur Dieu au lieu de se confier au discours de Dieu. Le penchant de l'homme et notamment de l'homme croyant, de l'homme religieux, c'est de se soumettre au Dieu des textes bibliques, par exemple, plutôt que de se soumettre à la parole de Dieu qui, elle, appelle l'homme, qui le met en question, qui le remet en question, qui initie notre quête de sens. C'est là un grand péché qui guette tous les chrétiens, pour ne prendre que notre exemple. Adorer le Dieu des textes bibliques, c'est adorer un objet. Ce n'est pas adorer le Dieu vivant, c'est adorer une représentation, une image, un discours, quelque chose de figé, de définitif, une image, une idole, au lieu de placer notre confiance dans ce Dieu vivant qui appelle à la vie ce qui n'est pas. Et ce Dieu-là n'est pas enfermé dans le texte biblique. Le texte biblique en donne quelques traces qui nous permettent de le retrouver dans notre existence concrète. Mais il faut aller plus loin que Bultmann et ne pas considérer que la seule manière de parler de Dieu est de parler de notre existence au sein de laquelle il fait son œuvre. Et c'est Marco qui nous a mis sur la piste, sur la voie qui mène à l'au-delà de Rudolf Bultmann. Car ce qu'il convient, c'est d'employer un langage de l'intérieur. C'est la seule façon d'abolir la distance. Un langage de l'intérieur. Un langage où ce n'est pas notre point de vue qui produit le discours, mais un point de vue partagé avec le divin. Il faut donc que ce langage de l'intérieur qui abolit la distance, soit un langage propre à faire tomber les voiles qui font écran à ce Dieu qui transforme, à ce Dieu qui fait mourir et ressusciter. Or, ce langage de l'intérieur, le seul langage qui soit, c'est le langage de la prière. C'est le sens des paroles de Jésus que nous avons relues dans l'Évangile selon Jean. Le Père est avec moi. La distance est abolie. C'est le langage de l'intimité. C'est le langage de l'intérieur. C'est le langage de la prière que Jésus va déployer dans le verset suivant, le début du chapitre 17, qui sera tout à l'heure notre prière d'intercession. Là encore, il convient de ne pas laisser la prière à l'état de ce qu'on en fait trop souvent, le catalogue des bonnes intentions ou la liste des désirs du moment. La prière est quelque chose de bien plus sérieux que cela. La prière, c'est ce face-à-face avec la vie placée face à l'ultime. La prière, c'est un dialogue avec les réalités qui nous entourent pour distinguer les réalités dernières de ce pseudo-réel dont nous nous encombrons facilement. Distinguer l'essentiel du secondaire. Ça, vous savez en général. Mais la prière est ce patient travail qui consiste à interpréter les signes des temps, qui consiste à découvrir cette heure qui vient mais qui est déjà là, qui est là mais qui n'est pas encore parue dans toute sa clarté. La prière, c'est ce travail de l'archéologue, en fait. Ce travail de l'archéologue qui est sur le site et qui va mettre à jour le site qui se trouve là, quoique caché par des siècles d'histoire. La prière, c'est cet acte de l'homme en bien des points semblable à l'agriculteur qui arpente son champ d'asperges et qui interprète le craquement de la terre comme l'œuvre de cette plante qui a poussé, qui est là, encore cachée, mais disponible à la cueillette. La prière, c'est non seulement ce qui permet à l'homme d'interroger le monde, mais la prière, c'est ce qui interroge le monde. C'est l'homme interrogeant le monde. C'est l'homme interprétant les signes, faisant quelque chose de ce qui est disponible là, autour de lui. Non pas comme des objets intéressants qui lui permettront d'augmenter son savoir, mais comme les éléments de sa propre histoire. Les éléments qui sont en interaction avec lui. Les éléments qui donnent sens à ce qu'il est, les éléments qui le construisent même. La prière, c'est ce que l'on pourrait appeler aussi méditation sur le monde, à la lumière de l'absolu. Cet absolu que les textes bibliques nomment l'éternel. C'est lorsque nous posons un regard pénétrant sur la vie. Et alors, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que c'est à ce moment que nous pouvons découvrir que le péché, loin d'être une réalité dernière, est submergé par cette grâce qui surabonde. Mais c'est parce que nous regardons le péché face à face, nous nous penchons sur l'abîme du mal, sans en être fascinés, sans s'y soumettre, mais en étant attentifs à cette vie qui point ici et là, tout autour. Une contemplation du mal sans qu'elle se commue en fascination. La prière, c'est justement ce qui nous rend disponibles à cette autre chose que le mal qui nous séduit tant. La prière, c'est aussi cet effort lorsque je pense pouvoir me suffire à moi-même. C'est cet effort pour briser quelques idoles sur lesquelles j'ai posé mes fondements. C'est cet effort qui ne se fait jamais sans quelque tribulation, nous rappelle Jean, c'est-à-dire sans quelque oppression et parfois dépression. Parce que la prière, c'est ce combat. C'est une lutte et certainement pas un quiétisme. Vous êtes là, tranquillement posé, dans cette chaleur ambiante de l'oratoire du Louvre. Et notre attitude est tout à l'opposé de ce qu'est l'attitude chrétienne. Souvent, on se dit, mais la prière doit être aussi passive que possible pour laisser à Dieu le soin de nous envahir, de faire l'œuvre. La grâce, c'est le fait que nous soyons passifs face à Dieu. Il faut donc faire silence pour que la prière soit authentique. Mais faire silence, c'est encore une action de l'homme. Faire silence, c'est bien faire quelque chose. L'homme ne peut pas se fuir lui-même sans s'emporter partout où il va. Bultmann. Agir en interprétant notre environnement, en essayant de donner sens à ce qui nous entoure, en étant disponible à l'ensemble du réel et pas simplement à ce qui nous a fascinés à un moment donné. Eh bien, Jésus révèle que la vie en plénitude qui nous est offerte ne s'accueille que de hautes luttes par la prière. Une prière qui comble le fossé qui nous sépare de Dieu et qui, ultimement, arrache la bénédiction semblable à celle de Jacob dans le livre de la Genèse. Une bénédiction est arrachée parce que, au terme de cette lutte, au terme de ce dialogue qui s'est engagé entre Jacob et le personnage mystérieux, l'un et l'autre sont parvenus à aller dans l'intimité de l'être, le nom. Dis-moi quel est ton nom avant que l'aube se lève. Et Jacob recevra comme réponse une bénédiction. Parce que Jacob est allé au fond des choses, dirions-nous, vulgairement aujourd'hui. Parce que Jacob a aboli cette distance. Il n'a pas considéré Dieu comme un « il », comme un objet. C'est donc par la prière, par la mise en doute de nos représentations, par la contestation des objets devenus sacrés, parmi lesquels une traduction biblique, mais aussi positivement par l'interprétation des signes, par une meilleure compréhension de celui ou de celle qui se tient à mes côtés et qui est porteur d'une vérité qui mérite de s'exprimer et d'être comprise. C'est par cet effort d'interprétation dans le dialogue que devient vrai pour nous-mêmes cette affirmation de l'apôtre Paul, là où le mal a abondé. Alors oui, la grâce a non seulement surabondé, mais elle surabonde encore aujourd'hui. Amen.